l'ange du Seigneur annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Radio Présence à foi 100.2.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, Présence Midi, nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette émission à la mi-journée. Encore tous nos meilleurs voeux, vous qui nous écoutez dans notre belle région Occitanie, et meilleurs voeux également à vous, Anne-Rose Jankovic, bonjour.
Bonjour Gilles, bonjour à tous et bonne année. Effectivement, on a encore le temps de se souhaiter tous les vœux de paix, de joie, de bonheur, de fraternité, de tout ce qu'on veut de bon pour l'année 2026.
Voilà, on fera ça à chaque émission. Si ça vous convient.
Oui, peut-être on va arrêter à un moment, mais bon, puisque vous m'avez lancé sur le sujet, je vous le dis, bonne année.
Allez, je vous lance sur un autre sujet. Vous étiez ce matin à Tarbes, vous étiez à la halle Marcadieu.
Oui, tout à fait. C'est jour de marché le jeudi à Tarbes et j'ai ouvert mon micro pour sentir un petit peu l'ambiance après les fêtes. Voilà, quelle ambiance sur le marché de Tarbes dans ce lieu emblématique des Hautes-Pyrénées. Eh bien, vous saurez tout dans quelques minutes.
Voilà, on parlera notamment de la fréquentation de la halle Marcadieu. Autre invité, eh bien, on va parler avec la correspondante du laïc du Prado. Eh bien, elle va nous expliquer un peu cette entité spirituelle qui a été créée au 19e siècle.
Oui, Madame Bourde Daguerre qui nous expliquera quelle est la spiritualité du Prado qu'est-ce qui rassemble les membres de cette équipe de laïcs du Prado. Elle nous dira tout cela aussi en deuxième partie d'émission.
Dans cette émission également, nous dirons à Bayonne pour évoquer l'actualité, l'agenda du diocèse de Bayonne-Lescar et Oloron. Pour cela, eh bien, on sera en ligne avec notre correspondante à Bayonne, c'est Violaine Ricourt-Dumas. Vous restez avec nous, Anne-Rose. On vous retrouve juste après l'essentiel de l'actualité avec les titres à la une. Et les titres sont présentés aujourd'hui par Lou de Neuville, qui est étudiante au sein de l'école de journalisme et de communication de Blagnac.
La mobilisation des organisations syndicales agricoles continue. Les préfets de la Haute-Garonne, du Gers et du Tarn-et-Garonne ont dévoilé les nouvelles mesures de sécurité concernant la circulation sur le réseau routier départemental. Et aucune vache ariégeoise ne devrait être présente à l'édition 2026 du Salon international de l'agriculture. Les syndicats sont unanimes, la crise sanitaire provoquée par la dermatose nodulaire ne permettra pas aux éleveurs ariégeois de se déplacer. D'autres départements devraient suivre le mouvement. À Figeac, dans le Lot, on annonce l'arrivée de nouveaux professionnels de santé sur le territoire. Les actions récentes en matière de prévention et d'éducation à la santé, mises en place par la directrice de l'hôpital et les représentants de la communauté professionnelle territoriale de santé du Grand Figeac, ont porté leurs fruits dans un département en manque de médecins traitants. À 76 ans, Isabelle Mire, la championne de ski pyrénéenne, est promue chevalier de la Légion d'honneur. Récompensée pour sa carrière sportive couronnée de 2 médailles olympiques, elle a aujourd'hui ouvert sa propre école de ski. Et c'est la Mandarelle qui s'invite à l'épiphanie pour célébrer les 500 ans du clocher de la cathédrale Notre-Dame de Rodez. Cette année, Rodez remplace la galette des rois par une pâtisserie locale à base de pommes, de crème de marron et de noisettes caramélisées agrémentées d'une fève à l'effigie du monument.
Eh bien, merci Lou de Neuville. On vous retrouve tout à l'heure à 12h30 pour développer ces titres dans le journal. Je rappelle que vous faites partie, que vous êtes étudiante au sein de l'école de journalisme et de communication de Blagnac. À tout à l'heure.
Radio Présence à Ax-les-Thermes, 92.7.
Direction Tarbes dans cette émission avec vous, Anne-Rose Jankovic. Rebonjour Anne-Rose.
Bonjour Gilles, bonjour à tous.
Ce matin, vous étiez sous la halle Marcadieu à Tarbes.
Oui, en effet, j'ai voulu prendre l'ambiance du marché en ce début d'année 2026 et je me suis rendue ce matin aux Aurores, au Hall Marcadieu. C'est le jour de marché hebdomadaire à Tarbes le jeudi. Alors, je vous propose une petite balade sous ces Halles Marcadieu du marchand de fruits, de légumes et qui a un petit peu hâte de vendre les légumes pour la garbure jusqu'à la productrice de miel qui propose des miels aux couleurs du soleil et qui garde le sourire, même s'il faut quand même bien le dire, il n'y avait pas foule ce matin sous les Halles Marcadieu. En passant par la petite cure de kiwi qui vous ferait le plus grand bien, Gilles, ces kiwis en provenance d'Adour Madiran ou encore le petit fromage de chèvre qui fait à peine grossir. Je vous embarque donc à travers ce lieu emblématique tarbé. Attention, micro ouvert, c'est parti.
Gérard d'Estarac.
Alors vous vendez des fruits et des légumes.
Fruits et légumes.
Vous étiez au Hall depuis combien de temps?
Vous étiez pas né.
Vous croyez?
Plus de 30 ans.
Plus de 30 ans, bah, j'étais peut-être née. Est-ce que vous pouvez me dire un petit peu la fréquentation qu'il y a eu là, à la fin de l'année? Les Halles étaient bien fréquentées pour les fêtes?
Pour nous, le mois de décembre, c'est toujours les mois les plus calmes. Donc ça ne reflète peut-être pas tous les commerçants. Mais nous, on fait légumes, le décembre, janvier, c'est les mois les plus calmes. Hein.
On ne fait pas le plein de clémentines?
Non, les gens, les poireaux et les carottes, ils s'en tapent un peu pour les fêtes, c'est pas ça qu'ils recherchent. Ils vont acheter un peu, mais pas plus que les autres années, pas plus que les autres semaines, et voilà.
Et alors là, vos fruits et légumes, par exemple, les clémentines que je vois devant moi, elles viennent d'où?
De Corse et du Portugal et d'Espagne. On a les trois provenances.
Et la clientèle préfère quoi?
Ici à Tarbes, c'est une ville où il faut des produits de base qui n'est pas trop attiré par les produits de luxe parce qu'il y a un pouvoir d'achat qui est ouais, faible. Donc c'est plutôt ce qui est bon marché ici à Tarbes. On a d'autres marchés où on est avec des produits qui sont plus chers.
Bon, en ce début 2026, là, il a fait bien froid, l'heure est à la garbure. Là, vous allez vendre des légumes pour la garbure, non?
Oui. Ah oui, les légumes, oui.
C'est reparti pour les poireaux?
Oui, c'est reparti pour les poireaux, parce qu'on a manqué de poireaux pendant 3 jours, parce que 80% des poireaux, ça vient du centre de la France et de Bretagne et de Normandie. Et tous les camions sont restés bloqués sur le bord des autoroutes.
Ah oui.
Donc on a manqué beaucoup, beaucoup de marchandises.
Alors pardon pour ma question, mais les 80% des poireaux viennent du centre de la France, mais du coup, c'est pas les producteurs locaux qui...
Il y a peu, c'est 10%, 20%, peu, même pas. Mais les grosses productions, c'est plutôt de Bretagne, Normandie. Enfin,
pour les carottes, les poireaux, les pommes de terre?
Ouais, les pommes de terre, oui. Les carottes, bon, j'ai des producteurs locaux autour de Toulouse. Mais après, beaucoup de légumes viennent du centre de la France.
Bah écoutez, on va vous laisser vous installer. En tous les cas, belle année au Hall Marcadieu. Merci. Okay.
Merci.
Alors, Angelica, de la ferme des Sauts de Cabri, à Mont-de-Marast, sur le marché de Tarbes, dans la Halle. Alors c'était plutôt vivant, effectivement, il y a eu beaucoup de monde au Hall pendant les deux marchés de Noël et du jour de l'an. On est plutôt content. Enfin, moi, en tout cas, je suis très satisfait d'avoir fait ces marchés-là. C'était vivant, il y avait du monde, il y avait des commerçants, il y avait des clients et tout le monde avait l'air d'être assez content pour les fêtes.
Vous, votre spécialité, ce sont donc les produits frais, le fromage de chèvre fermier. Ça, c'est un produit qui marche toujours ici en Bigorre.
Tout le monde a son plateau de fromage à la fin du repas, donc j'espère que tout le monde a mis son petit fromage de chèvre également pour les fêtes, oui.
Alors après les fêtes, les gens veulent faire peut-être un petit peu d'efforts, moins manger, on entend beaucoup parler des bonnes résolutions. Ça vous inquiète ça ou bon vous...
Alors on verra, mais j'ai un argument, le lait de chèvre reste quand même le lait le moins gras, donc si on veut se faire plaisir avec du fromage, il faut aller sur le chèvre en cette période-là.
Ah voilà, ça c'est un très bon argument. Alors en plus du fromage, yaourt, faisselle, tout ça c'est vous qui faites?
Oui, je produis tout sur ma ferme. Moi, j'ai un tout petit troupeau de 25 chèvres qui pâturent toute l'année. Je produis directement à partir du lait de la traite le matin, le fromage l'après-midi.
Avant les fêtes, et puis encore aujourd'hui, on a beaucoup entendu parler, bien sûr, de la crise agricole avec la dermatose. Mais est-ce que c'est quelque chose qui vous impacte, qui vous touche? Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ce sujet-là?
Alors effectivement, c'est des sujets qui nous préoccupent tous, même si ça concerne plutôt les bovins que les chèvres. On n'est pas à l'abri demain d'avoir une maladie qui se déclare également sur nos troupeaux. Et puis, on s'inquiète aussi de l'avenir. En tant que paysan, on se pose la question de voilà combien de temps on pourra encore tenir dans les conditions dans lesquelles on nous fait travailler aujourd'hui. Donc oui, on s'inquiète.
Pour vous, aujourd'hui, c'est quoi qui est difficile? Vous parlez d'une petite exploitation, vous êtes seul à travailler. Qu'est-ce qui est difficile au quotidien?
Ce qui est difficile, c'est le fait, c'est le revenu. Sincèrement, c'est le revenu. Moi, je travaille toute l'année, tous les jours, sans vacances, parce que je n'ai pas les moyens, avec un petit troupeau en pâturage, alors que je fais une agriculture plutôt propre. en prairie naturelle, je n'ai pas les moyens d'avoir un salarié ou quelqu'un pour m'aider. Donc c'est le revenu, je pense, qui est problématique aujourd'hui.
On peut savoir quel est votre revenu mensuel ?
Mon revenu aujourd'hui, il tourne, avec l'exploitation, il tourne autour de 200 à 400 euros par mois à peu près.
Donc avec tout ça, il faut vivre.
C'est ça. Mais bon, j'aime mon métier, ça ne remet pas ça en cause. Dis juste que, effectivement, le fait qu'on nous impose beaucoup de choses, le fait qu'on ait un métier qui soit peu valorisé, souvent mal rémunéré, ça empêche aussi de se projeter dans des projets à long terme et ça nous inquiète pour l'avenir, oui.
En tous les cas, on vous souhaite une belle année 2026. Bon courage à vous. Et puis, les auditeurs peuvent vous trouver là, sous les Halles Marcadieu, chaque jeudi matin, à Tarbes.
Merci beaucoup. Et oui, pas de souci, la ferme des Sauts de Cabri, on est présent. Merci beaucoup.
Voilà, alors maintenant, je suis avec Nicole Dabadi devant l'étalage Les Kiwis de Montségur. Bonjour Nicole.
Bonjour.
Alors le kiwi, c'est le fruit qu'il faut là, début janvier, pour surbooster.
Le fruit qu'il faut avec la vitamine C, plein pot. Et c'est exactement ce qu'il faut manger pour avoir la bonne forme et ne pas choper la grippe.
À ne pas choper la grippe pour ceux qui ne l'ont pas encore eu. Il y a eu une petite épidémie quand même en fin d'année. Tous ces kiwis viennent de votre production?
On est producteur à Montségur, dans le 64, à côté de Montbourguet et Vicambigore.
Voilà. Donc ça, c'est à Dourmadiran, c'est ça?
À Dourmadiran, pas très loin. Voilà, c'est ça, c'est le secteur.
Et vous êtes présente ici tous les jeudis au Halles Marcadieu à Tarbes?
Tous les jeudis à Marcadieu et tous les samedis à Brauban aussi. Il y a un étal aussi à Brauban.
Voilà. Donc, le kiwi, c'est un fruit qui marche bien, qui a bonne presse
maintenant. C'est rentré dans les mœurs. C'est un fruit d'hiver assez courant maintenant. Et oui, les gens sont bien habitués maintenant.
Donc ils font leur petite cure de kiwi.
Tout l'hiver, ils font leur cure de kiwi. Ah oui, oui, vraiment, oui.
Alors, ça veut dire que... moi, j'y connais rien en kiwi. Expliquez-moi, vous en produisez combien, de quelle quantité? Et puis, ça se récolte à quelle saison? Ça se garde combien de temps?
On a à peu près 5 hectares, à peu près, quelque chose comme ça. Et ça se ramasse au mois de novembre, début novembre. Et on commence à les vendre à partir du 15-20 novembre jusqu'à la fin du notre stock, jusqu'au mois d'avril à peu près. Voilà.
Et donc, ils se gardent comme ça, votre stock, ils se conservent
en chambre froide. On les garde dans une chambre froide et voilà. Quoi. Donc là, ils ne bougent pas et ils sont bien protégés pour passer l'hiver tranquille et voilà, mûrir tout doucement et voilà.
L'arbre qui produit du kiwi, oui, qui s'appelle le...
L'actinidia. Ah,
voilà. Voilà, on apprend plein de choses. C'est un arbre fragile. Enfin, il a fait très très froid.
Une liane, non, il ne risque rien. Là, la sève est descendue, donc il ne risque rien. Quand la sève est descendue, il peut faire froid jusqu'à peut-être moins 10, peut-être grand maximum, mais bon. Autrement, non. Après, au printemps, quand la sève remonte, oui, là, il y a un risque de geler, ça c'est sûr. Quand il y a les bourgeons, s'il gèle encore quand il y a les bourgeons, c'est sûr. Voilà.
Comme tous les arbres, en tous les cas, là, pour l'instant, rien ne vous inquiète pour la production de l'année 2026.
Non, il n'y a rien du tout. Là, il faut faire la taille, là, maintenant. Voilà. C'est notre gros boulot maintenant. Voilà, la taille. Hein.
Vous êtes combien à travailler sur l'exploitation?
On est 4, 5, 5, voilà. On est 5 personnes à travailler pratiquement tout le temps sur l'exploitation, voilà.
Et puis à venir ici pour vendre. Alors, et puis ça marche parce que les gens viennent vraiment chercher leur kiwi, faire leur petite cure. Alors Nicole, il y a quelque chose de très important, c'est que vous vendez ici sur le marché de Tarbes, c'est pas le seul marché que vous faites, mais vous vendez aussi au supermarché.
Voilà, on alimente beaucoup de grandes surfaces sur Tarbes, sur Pau, sur R, sur Adour, sur voilà, on couvre quand même pas mal de supermarchés, des Intermarchés, Leclerc à R, Auchan à Pau, oui, il y a beaucoup de supermarchés.
Et donc là, les consommateurs, les clients peuvent être sûrs que les kiwis ne viennent pas d'Amérique latine ou de l'autre bout du monde.
Non. On a notre logo, les kiwis de Montségur, c'est bien écrit dessus. Et donc là, les clients savent. Les grandes surfaces, elles ont un panneau avec notre photo en général. Et voilà, pour montrer qu'on est un producteur local et qu'on vend aussi des produits locaux dans leur supermarché. Voilà.
Est-ce que vous sentez, vous, par exemple, alors là, on parle beaucoup du Mercosur ces jours-ci, est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète? Vous vous dites, eh bien, peut-être que nos produits locaux, ils vont être en concurrence, ils continuent à être en concurrence avec des produits qui ne sont pas de la même qualité, qui n'ont pas été produits avec les mêmes normes et qui sont importés ici en France?
Oui, je ne sais pas exactement. Nous, ça nous touche pas encore beaucoup, mais c'est sûr que, bon, il y a du kiwi d'Italie qui vient, il y a des kiwis de Grèce qui viennent. Les clients, quand ils savent que c'est des kiwis de Montségur, ils y vont, ils savent que le kiwi est bon. Donc voilà. Mais bon, c'est sûr, on est en concurrence avec l'Italie, la Grèce, avec l'Europe. Quoi. Mais bon, après, la Nouvelle-Zélande, c'est différent parce que c'est un kiwi qui vient en été. On a un contrat avec la Nouvelle-Zélande, on va dire. Voilà, on alimente leur marché, nous, en Nouvelle-Zélande, pendant l'hiver. Enfin, nous, les kiwis de France, en hiver, en Nouvelle-Zélande. Et la Nouvelle-Zélande peut alimenter la France, voilà, dans le mystère sud, ouais, pendant l'été, quoi. Voilà.
On n'a pas parlé du coût, mais ça coûte combien? Un kilo de kiwi, ça coûte combien?
Nous, on les vend entre 4 euros, 3,60 euros. Il y en a à 2,80 euros. C'est à peu près, tout dépend du calibre. Il y a un peu de tout, quoi, disons. Voilà.
Alors, on produit du kiwi ici, dans le sud-ouest de la France, et on peut en trouver dans les supermarchés et sur les marchés très facilement. Donc, voilà, bah, c'est bien de consommer aussi les kiwis qui ont été produits ici, bichonnés ici. Dernière question, si moi aujourd'hui je prends les 2 kilos de kiwi pour me faire ma cure, comment je les conserve? Comment je fais pour qu'ils se conservent bien dans les jours qui viennent?
Je peux vous donner des mûrs et des pas trop mûrs. Déjà, en maturité, il y a un peu de choix. Et puis après, on les garde au frais. Au frigo si on veut les garder vraiment frais longtemps. Autrement, dans une pièce comme ça, si on les met avec des pommes, des bananes ou des poires, ils mûrissent beaucoup plus vite. Et si on les met à part, loin, au frais, ils se gardent beaucoup plus longtemps. Voilà.
Voilà. Tout savoir sur le kiwi. Vous nous rappelez le nom de l'arbre à kiwi?
Actinidia.
Voilà, moi j'ai appris quelque chose et peut-être que les auditeurs aussi. Merci pour votre accueil. Belle journée et belle année 2026.
Bonne année à vous aussi. Merci beaucoup.
Alors, bonjour Edith.
Bonjour.
Alors, mon petit doigt m'a dit que vous étiez au Hall Marcadieu depuis très longtemps. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement depuis combien de temps vous vendez votre miel que vous fabriquez à Montgaillard? Depuis combien de temps vous le vendez ici au Hall Marcadieu?
Je pense que ça va faire bientôt une dizaine d'années que je suis présente à Marcadieu. Voilà.
Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'évolution des halles? Ici ou là, des commerçants m'ont dit que la fréquentation a un peu chuté depuis le Covid. Il y a des pics de fréquentation. Vous observez quoi depuis votre stand où vous vendez du miel?
Alors oui, depuis le Covid, il y a des habitudes qui ont changé. Il y a des problèmes de stationnement. Il y a des PV qui sont mis aux petits papis et mamies qui ne veulent pas aller se garer trop loin non plus ou qui ne peuvent pas. Donc il y a une baisse en effective, oui, de la fréquentation du marché.
Vous vous en rendez compte aussi pour vos ventes de miel?
Oui, tout à fait.
Cela dit, les fêtes de fin d'année, fin décembre 2025, ça a marché quand même. Les gens sont venus chercher leur petit pot de miel à offrir ou à consommer pour garder la gorge bien en forme.
Ah ben oui, ils font le miel en cadeau. Après, il le faut aussi pour faire certaines recettes. Alors à la fois pour les plats chauds, mais aussi pour le pain d'épices, parce qu'il y en a qui ont tenté à se faire le pain d'épices. Et ensuite, il y avait la grippe qui commençait et tout. Donc ils en avaient besoin aussi pour se soigner, parce que c'est un produit magique.
C'est un produit magique. Alors justement, parlez-nous un petit peu des vertus du miel.
Alors, chaque miel a une vertu quand même adoucissante au niveau de la gorge, mais après, l'acacia, c'est l'estomac, le châtaignier, c'est la circulation sanguine, la bruyère, c'est la zone urinaire, etc. Mais le tout est de consommer régulièrement du miel, et après, c'est pas un pot par semaine, trois pots par semaine, non, c'est une cuillère à café par jour, la dose recommandée, donc c'est faisable.
Puis en plus, c'est bon. Vous produisez tout. Là, vous nous parliez du miel d'acacia, de bruyère, de châtaignier. Vous produisez tout ça?
Je ne vends que ce qui est produit, récolté par nous, oui.
Et alors, vos ruches, elles sont placées où?
Oula, alors actuellement, elles sont en pleine. On en a laissé quelques-unes au Pays Ras, mais après, elles sont en pleine parce que la météo oblige et on les garde autour de la miellerie pour pouvoir les surveiller en cas de vent, de neige, etc. Mais après, tout ce qui est châtaignier, c'est Arcisac. Le Tilleul, c'est un petit village au-dessus de Lourdes, Ségus. La Bruyère, eh bien, on est au lac d'Estaing, au col du Soulor. Le rhododendron, on va à Otacam. Enfin, il y a un circuit qui est bien déterminé. Voilà.
Travailler toute seule?
Oui, et mon mari est aussi apiculteur. Voilà.
Et ça fait combien d'années que vous faites ce métier?
Alors, mon mari est installé depuis 19 ans et moi, j'ai fait une reconversion après. Suite à un licenciement, je me suis installée.
Vous étiez dans quel domaine avant?
La comptabilité.
Ah, mais non, rien à voir. Enfin, si, il faut compter les pots de miel quand même.
Voilà, c'est ça.
Vous produisez quelle quantité par année? C'est jamais pareil?
C'est jamais pareil. Chaque année, ça baisse de toute manière un peu aussi. On a des problèmes avec la météo, avec le frelon cette année qui a été vraiment très présent sur nos ruches.
Ah oui?
Oui. Oui,
donc qui endommage complètement les ruches?
Ah oui. Oui, il les met vraiment en péril. Il les stresse, elles sortent, elles meurent. Enfin, on a transhumé, nous, les ruches, c'est-à-dire les déplacer d'un rucher à un autre jusqu'à fin novembre. Et normalement, on va dire qu'à août ou septembre, c'est fini les transhumances.
Ah oui, donc là, vous êtes obligé de les bouger pour qu'elles puissent fuir le frelon.
Exactement, oui.
Est-ce que là, ces jours-ci, il a fait très très froid? Quelles conséquences sur les ruches?
C'est pas spécialement gênant pour nous. On a une abeille qui résiste aux températures. Et là, eh bien, écoutez, elle est à l'intérieur. Et même hier, quand j'étais à la miellerie, vers le coup de 11h, il y en avait 2-3 qui partaient à l'extérieur pour aller chercher un peu d'eau et faire le vol de propreté. Non, tout là. Bon, on verra. Hein, on va faire la visite de printemps et on verra la mortalité qu'on aura.
Il y aura un petit peu de mortalité à cause du froid.
Oui, bien sûr.
Allez, dernière question, quel est le miel chouchou des consommateurs, des clients que vous avez ici, mais ailleurs, puisque vous vendez ici au Hall Marcadieu, mais vous faites, je suppose, d'autres marchés, et puis sûrement de la vente directe aussi chez vous?
Oui, alors celui qui plaît le plus, c'est le vôtre, c'est le miel d'acacia. Doux, liquide, voilà, la tartine, le café, la salade de fruits, etc. Il se passe partout, la salade chèvre chaud, la pizza, voilà.
Voilà, et ben merci beaucoup Edith, et puis avec bonne continuation, belle année 2026 avec vos abeilles.
Vous aussi, merci beaucoup.
Voilà, merci à Edith et merci aussi à vous Anne-Rose Jankovic. Voilà, vous étiez ce matin sous la Marcadieu à Tarbes.
Oui, tout à fait. Vous avez entendu cette ambiance un peu mitigée, hein, donc dans ces Halles Marcadieu à Tarbes, avec alors déjà des producteurs qui sont en congé en ce début d'année, des clients qui sont un peu timides, mais quand même la motivation est là de part et d'autre. Et puis une chose est sûre, surtout, c'est que dans ce contexte du Mercosur, les producteurs sont toujours très heureux et fiers de proposer des produits locaux de qualité qu'ils ont bichonnés, qu'ils peuvent expliquer. Et puis côté consommateur, eh bien c'est toujours un gage de confiance que de pouvoir échanger directement avec les acteurs du monde agricole. Donc n'hésitez pas, Gilles, vous pouvez y aller tous les jeudis matins à Halles Marcadieu, en plein cœur de Tarbes. Et vous avez peut-être entendu parler des kiwis. Vous avez appris certainement le nom de l'arbre qui produit des kiwis.
L'actinidia.
Vous pouvez le répéter.
L'actinidia,
voilà. C'est parfait. Alors oui, vous pouvez savourer les kiwis d'Adour Madiran chaque jeudi au Halles Marcadieu et beaucoup d'autres produits.
Voilà, pas facile à dire. Actinidia.
Actinidia, exactement.
Bien, merci, voilà. Vous étiez donc dans le département des Hautes-Pyrénées, sous la Marcadieu, et c'est à Tarbes. Un grand merci, Anne-Rose Jankovic.
Radio Présence, dans la vallée du Lot, 92.
Et Anne-Rose, vous restez avec nous, puisque dans quelques instants, autre invité à votre micro, on va parler des laïcs du Prado.
Avec Cécile Bourdelaguerre, qui est l'une des chevilles ouvrières des équipes laïques du Prado dans le diocèse de Tarbes et Lourdes, elle va nous expliquer quelle est cette spiritualité, qu'est-ce que vivent les membres de ces équipes de laïcs du Prado. Vous allez voir que c'est vraiment l'évangile qui est au cœur de tout ce mouvement, de toute cette spiritualité et des rencontres qu'ils proposent.
Voilà, ça sera à suivre dans une dizaine de minutes. Auparavant, eh bien, on va prendre la 64 puisqu'on va partir à Bayonne. C'est Violaine Ricourt-Dumas qui nous attend là-bas pour évoquer l'agenda du diocèse de Bayonne, Lescar et Oloron. Merci Anne-Rose et à tout à l'heure.
Allez, un petit café et on commence la journée.
Bonjour tout le monde, bienvenue sur Radio Présence. Il est 7h, très bon début de journée.
Et quoi de mieux que Présence Matin pour se réveiller? Tous les matins, de 7h à 9h, retrouvez Jonathan Botello pour vous donner le sourire, la bonne humeur et des cadeaux. Et il n'est pas seul, il est accompagné d'Isabelle Duché et de ses invités à 7h40. Présence Matin, l'émission qui égaye votre quotidien.
Présence à Toulouse, 97.9.
On s'arrête aujourd'hui à Bayonne pour l'agenda du diocèse de Bayonne, Lescar et Oloron. C'est avec plaisir que j'accueille Violaine Ricourt-Dumas. Bonjour Violaine.
Bonjour Gilles et bonne année à vous tous.
Meilleurs voeux à vous et à toute l'équipe du service communication du diocèse de Bayonne, Lescar et Oloron et à tout le diocèse. Puisqu'on parle des voeux, on va débuter cet agenda avec les voeux aux prêtres. C'est aujourd'hui, ça se passe à Saint-Pé-sur-Nivelle.
Exactement, c'est à Saint-Pé cette année, puisque hier il y a eu une journée de formation pour les curés. C'était une nouveauté cette année, toute la journée, une formation à la transformation pastorale et missionnaire. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un groupe de travail qui existe déjà depuis quelques années dans le diocèse et qui travaille donc à comment transformer nos paroisses pour qu'elles deviennent encore plus missionnaires. Transformation pastorale et missionnaire, donc les curés ont eu une formation hier sur ce sujet. Et aujourd'hui, tous les prêtres étaient invités à les rejoindre, donc à Saint-Pé-sur-Nivelle, au Pays Basque, pour cette cérémonie des vœux. Donc il y a une messe à 11h et ensuite les vœux de l'évêque. Et on termine avec un repas. C'est toujours très convivial pour tous nos prêtres. Donc ne vous inquiétez pas si vous ne voyez pas votre curé aujourd'hui. C'est parce qu'ils sont mobilisés à Saint-Pé-sur-Nivelle toute la journée.
On poursuit cet agenda avec également aujourd'hui la reprise de la lecture de l'évangile de Luc, c'est dans le cadre d'écriture en partage.
Oui, c'est le service diocésain de relations avec le judaïsme qui propose régulièrement des échanges en visioconférence. Il y a un lien Zoom à récupérer sur le site du diocèse à la date d'aujourd'hui, donc 8 janvier. C'est à 16h30. On lit ensemble la lecture, l'évangile de Luc avec une lecture croisée chrétienne et juive. Donc on va essayer de comprendre comment comprennent et interprètent le chapitre 6, est interprété le chapitre 6. Avec les épisodes des épis arrachés, comment c'est interprété par le judaïsme. Donc échange en visioconférence à 16h30. À noter que la prochaine visio sera le 22 janvier, qu'ensuite il n'y en aura pas en février. Donc n'hésitez pas à vous connecter via le site, le lien internet, donc à la date du 8 janvier dans l'agenda du site du diocèse, www.diocèse64.org.
On poursuit avec les jeudis du Concile, c'est par la formation permanente du Béarn et ça se passe à Pau.
C'est une fois par mois les jeudis du Concile qui sont proposés par la formation permanente du Béarn avec le père Michel Leclerc qui nous parle de la constitution dogmatique Dei Verbum, qui parle de la révélation divine. Donc des échanges passionnants un jeudi par mois. C'est ce soir à 18h30 et ça se passe au centre diocésain du Béarn à Pau, avenue de l'église Saint-Joseph, juste en face de l'église Saint-Joseph, donc à 18h30. C'est aussi également proposé à 20h pour ceux qui ne peuvent pas venir à 18h30. Et donc c'est sur, je le disais, la constitution dogmatique Dei Verbum du Concile Vatican II, ce soir au CDB de Pau.
Une veillée de prière est organisée ce vendredi soir en l'église Sainte-Bernadette à Pau.
C'est également une fois par mois que cette veillée de prière est proposée à l'église Sainte-Bernadette de Pau. C'est la communauté de l'Emmanuel et la paroisse de la Sainte-Famille qui le propose. Prier pour ces personnes proches, plonger dans la tendresse de Dieu. C'est une veillée de louange et de prière une fois par mois. Et donc rendez-vous demain soir à 19h, de 19h à 20h30. L'église Sainte-Bernadette de Pau se trouve 10 boulevard du Corps Franc-Pommier. Donc n'hésitez pas à venir pour cette veillée de prière et de louange avec la communauté de l'Emmanuel.
On prend un peu d'altitude dans cette chronique avec une journée raquette et prière dans les montagnes enneigées des Pyrénées.
Oui, il a beaucoup neigé, donc profitons-en, une journée enneigée et priante qui nous attend samedi. C'est toute la journée avec la communauté des Béatitudes de Nailles. On part depuis la communauté donc à Nailles et puis on va ensemble marcher dans la montagne, prier, écouter des enseignements, partager. La journée se termine par les vêpres et puis on peut rester dîner et participer aux danses d'Israël avec la communauté des Béatitudes de Nailles. Il faut apporter son pique-nique. N'hésitez pas à vous inscrire. Je vous donne les coordonnées. Donc, vous pouvez aller sur le site des Béatitudes. Donc, c'est nailles.béatitudes.org ou sinon un email accueilbéatitudesnailles@gmail.com. Donc, pour cette journée raquette et prière avec la communauté des Béatitudes, samedi toute la journée.
Voilà, et on termine cet agenda avec le parcours alpha, le début du parcours alpha du côté de Pau. On peut peut-être rappeler que ce que c'est le parcours alpha pour les auditeurs.
Oui, le parcours alpha, donc c'est un parcours de soirée très convivial, c'est œcuménique, ouvert à tous ceux qui se posent des questions, qui cherchent du sens à leur vie. Donc c'est ça peut être vraiment pour des catholiques pratiquants comme des personnes qui ne connaissent pas trop la religion chrétienne. N'hésitez pas à proposer cela à des personnes qui se posent des questions. Ça peut être après un deuil, ça peut être après un événement particulier. C'est à chaque fois très convivial. convivial, il y a un repas, un topo, une discussion pour découvrir les grandes bases de la foi chrétienne, découvrir la spiritualité, prendre du temps pour soi aussi et se faire des amis. Donc il y a eu une soirée découverte mercredi dernier, mais on peut venir bien sûr à la première soirée du parcours qui commence donc mercredi prochain de 19h30 à 22h. C'est à la salle paroissiale de l'église Sainte-Bernadette de Pau, 10 boulevard du Corps Franc-Pommiès. Il y a plusieurs parcours alpha proposés dans le diocèse. Ça commence souvent en janvier et donc celui-là, c'est sur la paroisse de la Sainte-Famille de Pau, mercredi prochain à 19h30 à l'église Sainte-Bernadette de Pau, donc pour ces parcours alpha.
alphapo.com, si on souhaite en savoir davantage, c'est le site internet. Et diocèse64.org, c'est un autre site internet à consulter si on souhaite suivre l'actualité du diocèse de Bayonne-Lescarré-Oloron, l'agenda et puis plus largement hein, tout ce qui se passe dans votre diocèse. Il ne faut pas hésiter à consulter le site. Voilà pour cette première chronique de cette année 2026. Encore tous nos meilleurs voeux, Violaine Ricourt-Dumas. Merci de démarrer cette nouvelle année avec les auditeurs de Radio Présence. Et on se dit à très vite. Je rappelle que vous êtes responsable de la communication pour le diocèse de Bayonne, Lescar et Oloron.
Merci beaucoup et à très bientôt.
Présence à Auch. 89.6.
Et bon appétit à l'écoute de Présence Midi. Ce magazine se poursuit jusqu'à 13h et à la mi-journée. C'est le moment de faire un point sur l'actualité régionale. Et c'est Lou de Neuville qui nous rejoint. Elle est étudiante au sein de l'école de journalisme et de communication de Blagnac. On la retrouve pour le journal régional.
La mobilisation des organisations syndicales agricoles continue. Les préfets de la Haute-Garonne, du Gers et du Tarn-et-Garonne ont dévoilé les nouvelles mesures de sécurité concernant la circulation sur le réseau routier départemental. Pour rappel, un arrêt zonal interdit depuis début janvier la circulation de tout engin agricole, tracteur et poids lourd transportant des engins agricoles sur l'ensemble des axes routiers de la région Occitanie. Les déplacements de ces véhicules sont cependant autorisés pour les travaux agricoles et la desserte locale. Cet arrêté prend fin ce soir alors que le préfet de la Haute-Garonne a interdit tout rassemblement revendicatif à Toulouse. En attendant, gardez l'œil sur votre GPS afin de respecter les déviations éventuelles et éviter les points de blocage. Toujours dans le domaine agricole, aucune vache ariégeoise ne devrait être présente à l'édition 2026 du Salon international de l'agriculture. Les syndicats sont unanimes, la crise sanitaire provoquée par la dermatose nodulaire ne permettra pas aux éleveurs ariégeois de se déplacer. Déception du côté du syndicat Gascogne de l'Ariège qui devait présenter cette race de vaches au Salon international. Les vaches limousines devraient également être les grandes absentes de cette édition. Le président de la Chambre d'agriculture de l'Ariège, Philippe Lacube, s'est exprimé sur le sujet, je cite « Il y a beaucoup de risques que les autres races lui emboîtent le pas, pour des raisons évidentes de sécurité sanitaire. » À Figeac dans le Lot, on annonce l'arrivée de nouveaux professionnels de santé sur le territoire. La directrice de l'hôpital et les représentants de la communauté professionnelle territoriale de santé du Grand Figeac ont lancé leurs objectifs 2026, je cite. Nous voulons resserrer les liens entre les médecins de la ville, les professionnels de santé libéraux et les praticiens hospitaliers. La mise en place récente d'actions en matière de prévention et d'éducation à la santé a séduit de nouveaux professionnels. Récemment, un médecin généraliste s'est installé à la maison de santé, alors qu'un infirmier en pratique avancée s'est établi à l'unité de médecine générale. De quoi proposer des consultations à des patients sans médecin traitant. À 76 ans, Isabelle Mire, championne de ski pyrénéenne, est promue chevalier de la Légion d'honneur. La ville de Saint-Lary salue sa célèbre résidente, l'athlète française la plus titrée en ski de descente. Avec ses 2 médailles olympiques et ses 10 titres de championne de France, Isabelle Mire a reçu la médaille nationale du mérite à 17 ans. Après sa carrière sportive, elle a créé une école de ski qui enseigne selon une pédagogie inscrite aujourd'hui dans les documents officiels de l'éducation nationale pour les professeurs de sport. La Mandarelle s'invite à l'épiphanie pour célébrer les 500 ans du clocher de la cathédrale Notre-Dame de Rodez. À cette occasion, Rodez remplace la galette des rois par cette savoureuse pâtisserie locale à base de pommes, de crème de marron et de noisettes caramélisées. Cette année surprise, la fève est à l'effigie de la cathédrale Notre-Dame de Rodez, un hommage pour les 500 ans de l'édifice dont les rosaces et la cloche ont inspiré ce délicieux gâteau ruthénois.
Eh bien voilà, un grand merci Lou de Neuville. Voilà, je rappelle que vous êtes étudiante au sein de l'école de journalisme et de communication de Blagnac. Retour de l'info sur notre antenne à 13h avec la rédaction française de Radio Vatican pour l'actualité nationale et internationale. Bon appétit, la suite de Présence Midi, c'est avec Anne-Rose Jankovic et ses invités.
Radio Présence, dans la vallée de la Garonne, 97.9.
Bonjour Cécile Bourdeau-Daguerre.
Bonjour Anne-Rose.
Vous êtes membre de l'équipe de laïcs du Prado dans le diocèse de Tarbes et Lourdes. Vous êtes correspondante de cette équipe. Vous allez nous expliquer à quoi ça sert une équipe de laïcs du Prado. Qu'est-ce que vous vivez? Qu'est-ce que vous partagez dans cette équipe? D'abord, on va revenir un peu à la source, si je puis dire. Le Prado, qu'est-ce que c'est?
Alors, le Prado, c'est une entité spirituelle qui a été créée par le Père Chevrier au XIXe siècle, et au départ pour des prêtres. Mais dès le début, le Prado, ça a été créé à Lyon, et ça s'adressait aux enfants, et aux enfants qui étaient dans les rues, aux enfants qui étaient employés très jeunes dans les ateliers de soierie, et donc qui étaient très isolés. Donc cette spiritualité, elle a été très importante, et les prêtres du Prado se sont toujours engagés dans un schéma de pauvreté, d'abandon au Christ, et alors qu'au départ, le Père Chevrier, il était d'une famille qui n'était pas pauvre, qui n'était pas...
Plutôt bourgeoise, oui.
Plutôt bourgeoise, voilà, oui.
Et donc, en fait, l'objectif, c'était d'encourager des prêtres ou de proposer à des prêtres de s'engager dans un ministère au milieu du monde ouvrier pour apporter la parole de Dieu dans ce monde ouvrier, c'est ça?
Voilà, pour être vraiment des témoins du Christ en monde ouvrier, et pour eux, comme pour nous, évidemment, c'est être témoin du Christ, c'est être avec les plus pauvres et vivre comme les plus pauvres avec eux. C'était au milieu du 19e siècle.
Au milieu du
19e... C'est à peu près la même époque que Bernadette Soubirou, il avait
donc, dit. Donc, au milieu du 19e siècle. Et depuis, eh bien, d'autres prêtres, et de plus en plus nombreux, sûrement, ont voulu suivre cet exemple et s'investir, s'engager. Dans notre diocèse de Tarbes et Lourdes, on a plusieurs prêtres
grâce à eux qu'on a connu le Prado et qu'on a pu démarrer les laïcs du Prado dans le diocèse.
Voilà.
C'est appel.
Alors eux sont plutôt engagés, enracinés dans le monde rural.
Alors, il y en a dans le monde rural, mais il y en a aussi dans le monde ouvrier. Vous avez encore le père Paul Ginesté qui habite ici, à présent qu'il est à la retraite, qui est au Prado et qui était plutôt milieu ouvrier, qui était prêtre ouvrier. C'est-à-dire, ils ont toujours leur engagement diocésain, ils se sont des prêtres diocésains, mais ils ont prononcé des vœux au Prado. Et ils se retrouvent donc à peu près une fois par mois pour partager leur vie. Et puis il y a différentes actions de spiritualité. Ils ont des retraites, ils ont des temps de remise à niveau. Il y a même un séminaire. Il y en a certains des prêtres du diocèse qui ont fait leur séminaire au Prado à Lyon.
Voilà, alors ça c'est pour les prêtres, mais assez vite en fait, après la fondation du Prado par le père Chevrier, des laïcs ont pris le mouvement, sont entrés dans ce mouvement-là d'une autre manière, mais en tous les cas avec cette spiritualité du Prado. Est-ce qu'on peut parler d'une spiritualité du Prado? On peut dire
qu'il y a une spiritualité du Prado. Tout à fait. Il y a une spiritualité du Prado qui est basée, c'est assez facile à se repérer, sur la crèche, la croix et le tabernacle. Voilà. Donc c'est être pauvre comme Jésus quand il est arrivé dans le monde. C'est vivre jusqu'à la croix, être crucifié comme lui, et puis se laisser manger comme dans l'Eucharistie. Voilà.
Alors vous avez, Cécile Bourdeau-Daguerre, vous avez rejoint une équipe de laïcs du Prado dans le diocèse de Tarbes et Lourdes. Ces équipes de laïcs du Prado, il en existe, j'imagine, un petit peu partout en France ou dans pas mal de diocèses. Qu'est-ce qu'on y vit dans une équipe? Comment on rejoint cette spiritualité avec la crèche, la croix et le tabernacle dans une équipe laïque du Prado?
Oui, alors en fait, dans le Prado, c'est à présent une famille. parce qu'il n'y a pas que des prêtres, il y a aussi des religieux, il y a des religieuses, il y a des laïcs consacrés. Et donc, voilà. Et il y avait, comme vous avez dit, depuis le début. Et depuis le début, il y a eu des religieuses, il y a eu donc tout ça. Mais les laïcs, en tant que tels, jusqu'à présent, ils n'étaient pas reconnus comme une branche de la famille.
Ils étaient là, mais pas reconnus comme une branche de la famille.
Depuis toujours. Et alors, en 1997, commencer à avoir une démarche pour qu'il soit constitué en tant que laïc du prado.
D'accord.
Voilà. Et dans le diocèse, il n'y en avait pas. Mais dans les années donc 2000-2002, les prêtres du prado, qui étaient donc très nombreux dans le diocèse à ce moment-là, ont fait appel à un certain nombre de laïcs qu'ils connaissaient parce qu'on travaillait avec eux dans le cadre du ministère. Alors moi, par exemple, c'est dans le cadre du CCFD, Terre Solidaire, et que je les ai bien connus. Et donc, ceux qu'ils avaient repérés, pour qui cette spiritualité pouvait être importante, ils nous ont réunis, puis ils nous ont parlé de la spiritualité, et on a constitué une première équipe, en 2002. Et à présent, il y a 3 équipes du Prado, de laïcs du Prado sur le diocèse.
Donc, réparties dans quel coin?
Alors,
du diocèse?
Il y a une équipe qui est basée sur Tarbes, qui est l'équipe de départ, mais d'où on ne vient pas que de Tarbes. Et puis, il y a une équipe sur Lourdes, Vallée des Gaves, Lourdes-Argelès. Et puis, il y a une autre équipe, Lannemezan-Baronnie.
Voilà, donc 3 équipes. Dans chaque équipe, il y a combien de personnes?
Une dizaine à peu près. Voilà, une dizaine de laïcs et un prêtre accompagnateur. On a encore la chance, ce qui n'est pas partout en France le cas, d'avoir un prêtre du Prado qui puisse accompagner nos équipes.
Avec des rencontres donc qui sont très régulières et toute l'année?
Voilà, alors donc on a des rencontres, on doit avoir une rencontre une fois par mois en période, sauf pendant l'été. Et puis, après, on a par année une récollection qui est proposée au niveau du Sud-Ouest. Pour nous, la région, c'est la région du Sud-Ouest, donc une récollection pour les laïcs. Alors, cette récollection a la particularité d'être préparée à tour de rôle par un diocèse différent, donc ce qui lui donne un esprit, puis ce qui nous permet de partager nos réalités. Voilà. Et puis, il y a aussi, ça fait un peu moins de temps, mais ça doit commencer à faire presque une dizaine d'années, une retraite pendant l'été qui est proposée aux laïcs. Et donc, toujours pareil pour le Sud-Ouest. Mais bon, la retraite, elle est ouverte plus largement que le Sud-Ouest, parce qu'il y a plusieurs retraites comme ça pendant l'été proposées pour des laïcs. Et donc, suivant nos disponibilités, peut aller éventuellement dans une autre région.
Alors, pour vous, qu'est-ce qui vous a touché, interpellé dans cette spiritualité? Pourquoi vous avez rejoint une équipe de laïcs du Prado? Qu'est-ce qui fait que dans cette spiritualité-là que vous nous avez expliqué, la crèche, la croix, le tabernacle, qu'est-ce qui vous touche là-dedans?
Alors, pour moi, j'ai toujours beaucoup œuvré en pastoral. Et donc, œuvrant en pastoral, j'ai toujours cherché à avoir un approfondissement spirituel pour moi-même, pour pouvoir accompagner les gens. En particulier, j'accompagnais beaucoup les jeunes, donc pour pouvoir le faire, pour moi, c'était très important d'avoir une recherche. Alors, j'ai participé à plusieurs groupes au long de ma vie. Puis là, dans les années 2000, j'avais plus rien qui me correspondait. J'étais vraiment en recherche. Et comme j'étais très engagée au CCFD, et donc avec les prêtres du Prado, et puis que le CCFD, pour moi, il y a 2 choses très importantes. C'est cette attention et ce partenariat avec les pauvres, mais pauvre qui n'est pas simplement au sens de la richesse, hein, c'est les gens pour qui le plus important, c'est une vie en communauté, et puis c'est une vie en aidant les autres à être eux-mêmes, et eux-mêmes avec d'autres, sans écraser les autres, sans... Et voilà. Et donc,
vous avez été touchée par ça, quoi. Enfin,
donc, c'était pour moi...
C'était votre désir.
C'était une spiritualité qui prenne ça en charge. C'était très important. Après, bon, il y a toujours eu l'étude de l'évangile et de la Bible. Enfin, ça aussi, c'est
oui, parce que dans une équipe de laïcs du Prado, quand on se retrouve, c'est autour de l'évangile. C'est l'évangile qui rassemble. C'est le partage de l'évangile.
Alors, il y a le partage un peu de nos vies, un peu un partage de nos vies
personnelles. Il y a une vie fraternelle.
Une vie fraternelle. Ouais. Et puis, alors, ça se situe toujours autour d'une lecture d'évangile. Donc, on a choisi à l'avance, et on le sait, quel est l'évangile qu'on va travailler le jour où on se rencontre. Donc,
mais ça, c'est toujours, il y a toujours l'évangile
dans vos rencontres. Il y a toujours le partage d'évangile, oui, toujours.
Et alors, justement, pour rejoindre ce que vous disiez juste avant, comment l'évangile répond à cette quête que vous aviez de trouver un lieu ou un engagement qui puisse vraiment rejoindre cette dimension d'attention aux pauvres?
Oui,
alors, comment dans l'évangile vous trouvez les réponses à ça?
Alors, dans l'évangile, donc ce que je vous disais par rapport au CCFD, il y avait ça, et il y avait le fait que dans le CCFD, c'est une collégialité, et une collégialité où on est issus très différents, puisqu'il y a les scouts et les guides, il y a les aumôneries, ouais. Il y a l'action catholique, et des milieux indépendants, il y a l'enseignement catholique, il y a. Alors, et tous ensemble, on arrive à faire église. Et pour moi, le CCFD, ça a été vraiment une révélation de ce que pouvait être l'église, quoi. Ce que pouvait être l'église aujourd'hui. L'église, c'est chacun de nous avec sa réalité, et voilà. Et donc, là, quand on fait le partage d'évangile au Prado, c'est la même chose. On va partir de l'évangile, alors, et cet évangile, on va l'étudier, on va le remâcher, le relire. Moi, je sais que j'aime bien l'écrire, je le réécris comme ça, je souligne, puis enfin, avec un vis-à-vis, je mets mes réflexions. Et dans ces équipes du Prado, on a tous finalement des engagements. Alors, soit des engagements dans la vie sociale, en plus de son métier, ou à présent, quand on est retraité, on n'a plus de métier, mais aussi des engagements en église. Il y en a beaucoup. Bon, moi, je vous l'ai dit, j'étais engagée dans la pastorale. Il y en a d'autres qui étaient engagés en action catholique, il y en a qui étaient, enfin, qui sont engagés dans leur paroisse pour les défunts.
Donc chacun, avec votre expérience, voilà. Vous recevez aussi l'évangile ou voilà. Vous l'accueillez avec vos sensibilités, vos expériences. Quoi.
Voilà, et donc c'est ce qui enrichit notre partage, parce que chacun, du coup, témoigne à un exemple dans le vécu du mois de ce que lui a révélé cet évangile.
Et donc, au quotidien, en dehors de ces rencontres avec votre équipe, comment vous mettez l'évangile au cœur de votre vie quotidienne?
Au cœur de la vie quotidienne, moi, je crois, comme je vous l'ai dit, l'appel du Père Chevrier, c'est un appel à une certaine pauvreté. Alors, on parlerait pas de pauvreté, ben on parlerait plus de pas
de simplicité,
d'une vie à présent équitable pour tout le monde, de pas gaspiller, de pas. Alors tout ça, c'est au cœur de la vie quotidienne et pour nous.
Comment on fait pour rejoindre une équipe laïque de Prado?
Il suffit de venir et de voir.
C'est ouvert à tous.
C'est ouvert absolument à tous.
Quel que soit son âge. Et voilà. Ça.
Quel que soit son ancienneté dans la foi. C'est totalement ouvert.
Alors peut-être qu'on pourra indiquer sur le site du diocèse catholique65.fr les coordonnées, voilà, le numéro à composer pour pouvoir vous rejoindre. Un dernier mot, Cécile Bourdeau-Daguerre, puisque c'est l'année du jubilé de l'espérance qui va bientôt s'achever, mais enfin il nous reste encore quelques semaines. Pour vous, alors parce que j'imagine que depuis le temps que vous êtes dans cette équipe laïque du Prado et que vous mettez le nez dans l'évangile, il y a certainement un passage de l'évangile qui vous parle d'espérance, qui vous évoque le mieux l'espérance. Quel serait-il ce passage de l'évangile qui vous tient vraiment à cœur et qui vous parle d'espérance?
Je ne sais pas si j'arriverai à dire un passage d'évangile. Moi, je pense que tous les passages d'évangile révèle Jésus, Jésus dans le monde, Jésus qui s'est fait le petit, pauvre, qui a donné sa vie jusqu'à la crucifixion. Enfin, chaque fois, on retrouve cette espérance qui est notre foi, mais qui est notre foi malgré toutes les vicissitudes, malgré... Nous avons beaucoup travaillé sur ce thème de l'espérance et en particulier, on l'a travaillé nos deux dernières retraites à travers Saint-Paul.
Ah oui.
Et moi, je sais que, par exemple, ça m'a fait découvrir un Paul que je n'imaginais pas comme ça. Enfin, j'avais plein d'idées préconçues sur Paul et... Là, j'ai découvert vraiment quelqu'un qui n'était pas l'homme seul que j'imaginais. Et puis les premières communautés, la vie des premières communautés, qui n'a pas été facile, qui ont eu des difficultés au moins aussi énormes que celles qu'il y a actuellement dans le monde. Et malgré ça, le christianisme s'est développé, etc.
Donc il y a toujours une place pour la bonne nouvelle.
Ah oui, ça, oui.
Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Cécile Bourdeau-Daguerre. Merci de nous avoir parlé aujourd'hui de cette équipe des laïcs du Prado. Il y en a quatre dans le diocèse de...
Trois dans le diocèse de Tarbes-et-Lourdes.
Trois équipes de laïcs du Prado dans le diocèse de Tarbes-et-Lourdes. Et la porte est ouverte à tous ceux qui veulent, avec vous, se plonger dans la parole de Dieu et dans ces évangiles. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Présence à Saint-Bertrand-de-Comminges. 94.1.
Direction cette semaine, le chemin de Bernadette dans nos balades en Pays de Lourdes et c'est Julie que j'ai le plaisir d'accueillir. Bonjour Julie.
Bonjour.
Faites partie de l'Office de Tourisme de Lourdes et on a décidé cette semaine de s'attarder sur deux lieux emblématiques de Lourdes sur ce chemin de Bernadette. C'est le cachot et le moulin de Bolly, un des moulins les plus visités dans le monde finalement.
Exactement. Alors, c'est une nouveauté. Alors, nous avons un chemin de Bernadette qui existait déjà auparavant avec des clous en laiton autour dans les rues de la ville de Lourdes qui regroupent ces lieux de vie. Et nous avons également maintenant des spots vidéo sur certains lieux qui permettent de reconstituer, de vraiment de voir, de s'immerger dans la vie de Bernadette autrefois sur les lieux, ces lieux de vie. Et nous avons notamment à Lourdes la chance d'avoir gardé quasiment intact deux de ces lieux vraiment qui sont emblématiques de Sainte Bernadette, puisque ça va être le moulin de Bolly, où elle est née, sa maison natale, et le cachot, où elle vivait à l'époque des apparitions. Donc c'est vraiment deux lieux qui sont quand même assez importants sur ce cheminement. Mais ce qu'on sait moins, c'est que ces deux habitations de la famille Soubirous existaient bien avant Bernadette, et bien avant tous les événements de 1858. Par exemple, le moulin de Bolly, voilà, ça va être l'un des moulins les plus visités au monde du fait de son histoire liée à Bernadette. Mais il était également très ancien. Il date d'avant le XVIIIe siècle et il faisait partie de très nombreux moulins qui se trouvaient sur le ruisseau du Lapaca. Alors, le ruisseau du Lapaca, c'est un ruisseau qu'aujourd'hui on ne voit plus à l'œil nu, mais qui existe bel et bien toujours, puisqu'il se trouve sous le boulevard de la Grotte. Voilà, le boulevard de la Grotte qui avait été construit pour faciliter l'accès des pèlerins jusqu'au sanctuaire, entre la gare et le sanctuaire. Et le long de ce moulin, alors il y avait environ 13 moulins à eau. En tout, dans Lourdes d'autrefois, il y avait 18 moulins. Certains étaient sur le Gave, mais c'était quand même des moulins plus conséquents, vu que le Gave avait quand même plus de débit, il permettait de faire tourner plus de meules, et donc souvent c'était plusieurs familles qui pouvaient vivre dans ces moulins. Là, sur le Lapaca, dans les 13 petits moulins, il y avait en général une famille qui était locataire par moulin, et qui devait reverser ensuite une partie de sa récolte, enfin de sa production, à des propriétaires. Et le moulin Bolly a un nom un peu particulier. C'est un nom d'origine anglaise, le nom de ses anciens propriétaires, en fait, qui est resté. C'était maître David de Bolly, qui était maître chirurgien anglais et qui est venu s'établir à Lourdes. Bien des années plus tard, la famille de Bernadette va y arriver, notamment par François Soubirous, qui est son père, qui va épouser Louise Castéro. Alors après, François Soubirous, il n'était pas très loin. Hein, il venait d'une famille qui était d'un moulin juste en dessous. Donc il n'a pas déménagé trop loin. Et Louise Castéro, elle vivait avec sa mère et ses trois sœurs au moulin de Bolly. Et c'est là que Bernadette va voir le jour. et va grandir une partie, voilà, une partie de son enfance. C'était le moulin, selon ses termes, le moulin du bonheur, vu qu'elle y a passé de très belles années de sa vie. Et par contre, c'est en 1852 que le propriétaire du moulin le vend, et que là, son père, François Soubirous, ne va plus pouvoir payer le loyer. C'est à partir de là qu'ils vont commencer à déménager.
Alors, ce moulin de Bolly, le ruisseau du Lapaca, lorsqu'on se balade à Lourdes, ben on le voit pas lui, puisqu'il est sous le boulevard.
Exactement, on ne le voit plus, il est sous le boulevard de la Grotte. Il a été un petit peu enterré à partir du moment où les pères de la Grotte ont fait construire des grands travaux d'urbanisme en faisant construire tout un boulevard entre la toute nouvelle gare ferroviaire qui permettait d'emmener des pèlerins plus facilement à Lourdes et pour les faire arriver jusqu'à la porte Saint-Michel. Il y a notamment la construction du pont Saint-Michel qui va être un temps fort et vraiment un énorme chantier pour pouvoir enjamber le Gave.
Voilà pour ce premier lieu de vie de Bernadette, donc ce moulin de Bolly que l'on peut visiter. Le deuxième lieu, c'est le cachot. Alors pourquoi le cachot ?
Exactement. Alors le cachot, c'est vrai que c'est un nom particulier. Souvent, on peut nous demander à l'office de tourisme, mais pourquoi Bernadette était en prison ? Mais pas du tout, en fait. C'est un nom, comme le moulin Bolly, finalement, le nom est resté à travers les époques, mais ça n'en était plus un. C'était une ancienne prison, effectivement, mais qui avait été désaffectée depuis 1824. Donc c'était plus de 30 ans avant les événements de 1858. Et c'est une petite pièce unique, vraiment très petite, un petit local finalement, qui avait été vendu par la municipalité et qui, de fil en aiguille, est parvenu au cousin de la mère de Bernadette, donc qui s'appelait André Sajous, et qui, devant finalement la pauvreté de la famille Soubirous, qui à ce moment-là a déjà connu 3 déménagements avant d'arriver au cachot, va leur céder la petite pièce. Donc ils vont vivre à 6 dans cette pièce, et ils arrivent au cachot en mai 1856.
Le cachot qui est donc rue des Petits Fossés. Un mot peut-être pour terminer du dernier lieu de résidence à Lourdes de Bernadette.
Oui, alors voilà, par rapport à la rue des Petits Fossés aussi, pour resituer un petit peu, par rapport à la ville médiévale, c'est un nom qui est resté également de cette rue, puisque c'était l'enceinte, la délimitation de la ville autrefois. Les remparts arrivaient rue des Petits Fossés. Le nom est resté parce que c'était des fossés qui étaient en eau, donc c'était quand même un quartier qui n'était pas très salubre. Ils avaient été asséchés quand même bien avant l'arrivée de Bernadette au cachot, donc c'était déjà une rue, mais ça restait quand même une rue très étroite. Il y avait encore des anciens bouts de remparts, donc c'était quand même assez petit, le soleil ne passait pas trop. C'est pour ça que c'était quand même assez insalubre Comme lieu. Et effectivement, après les apparitions, donc après 1858, dans la famille de Bernadette, on leur a conseillé de déménager, puisque voilà, ce n'était plus possible de rester là. Et effectivement, ils vont quitter le cachot, ils connaîtront ensuite 3 autres déménagements. Et finalement, juste avant que Bernadette ne parte pour le couvent des sœurs à Nevers, sa dernière soirée, elle va la passer à Lourdes, au moulin Lacadé. Alors on le connaît aussi comme la maison paternelle, mais c'était un autre moulin encore, sur le ruisseau du Lapaca. Et ce moulin, il avait été acheté par le diocèse. Alors il a d'abord été loué, puis acheté par le diocèse de Lourdes pour pouvoir héberger la famille Soubirous dignement. Et Bernadette y passera sa dernière soirée en juillet 1866 avant de partir pour Nevers. Elle ne reviendra plus à Lourdes après cela, mais sa famille continuera à y vivre. Et d'ailleurs, c'est encore la famille Soubirous qui gère cette maison paternelle.
Voilà, 2 lieux que l'on peut visiter à Lourdes. Ces 2 lieux sont sur ce chemin de Bernadette, avec désormais un chemin digital, vous l'avez dit. On a donc parlé avec vous, Julie, du cachot et du moulin de Bolly, à ne pas manquer si vous venez à Lourdes. Voilà, un grand merci Julie, on se dit à très vite pour une nouvelle balade en pays de Lourdes. Je vous rappelle que vous faites partie de l'Office de tourisme de Lourdes. À bientôt.
Merci beaucoup Gilles, à bientôt.
Mes amis, nous allons vivre et vivre fort intensément, à ne regarder que devant, vivre à plus de 100 000% en oubliant qu'on va mourir. Oui, mes amis, nous allons vivre sans condition, vivre vraiment, sans peut-être sans oui, mais attends. à tout bouffer à plein temps, à surtout ne jamais subir. Oui mes amis, nous allons vivre. Les doigts en verre, la tête au vent, le regard fier, le feu au sang, le courage et le cœur battant, nous relevant malgré le pire. Oui mes amis, nous allons vivre, sans jamais perdre aucun moment, jamais laisser filer le temps, en se serrant, en s'embrassant, à oublier qu'on va mourir. Oui mes amis, nous allons vivre, vivre sans regret, sans tourment, pliant peut-être mais résistant, à toutes les tempêtes, les torrents, à toutes les critiques des sbires. Oh mes amis, nous allons vivre, et vivre sans anesthésie, sans être abruti.
Présence à Saint-Céré, 95.8.
Radio Vatican,
le journal.
Le journal.
Le pape rappelle l'importance du collège des cardinaux et leur responsabilité dans leur collaboration au service pétrinien.